Oui, quel magnifique moment dimanche dernier que ce service de baptême. Mais j'ai commis une grave erreur dimanche dernier. Oui, quand j'ai dit que « You will never walk alone », c'était la devise de Manchester United, je m'ai trompé. Je me suis trompé, c'est celle de Liverpool. J'y ai pensé toute la nuit, je me suis dit, mais non, enfin, ils sont en rouge aussi. Donc, une grave erreur, et je vous prie de recevoir mes plus plates excuses. Ce matin, c'est tellement important. Ce matin, comme les vacances approchent, comme l'été approche, je voulais vous parler d'un sujet extrêmement important, c'est le travail. Et pas seulement parce que les vacances approchent, mais aussi parce que pendant cette réforme des retraites, on a entendu des choses un petit peu particulières, étonnantes même. Alors, je ne vais pas prendre parti pour ou contre cette retraite, cette réforme des retraites ou de la retraite. Je ne veux pas savoir si elle était nécessaire, indispensable, souhaitable, si on n'aurait pas pu faire autre chose. Je ne prends pas parti. Mais on a entendu une phrase comme celle-ci qui disait « On veut nous voler 2 ans de notre vie ». Comme si le prolongement du travail, c'était voler de la vie. Comme si le travail ne faisait pas partie de la vie. Effectivement, on peut se poser la question entre le travail et la vie. Quel est notre rapport avec le travail? Et ce rapport est souvent très ambigu ou ambivalent. D'un côté, on dit très sérieusement que le travail, c'est la santé, mais on s'empresse de rajouter avec Henri Salvador et son grand sourire que ne rien faire, c'est la conserver. Et puis, il y a Gaston Lagaffe, on le voit dans la... Hein, ne pas déranger, je bosse, qui nous invite... Alors Gaston Lagaffe de Franquin, le fleuron de la BD belge, qui a fait tout pour nous donner envie de faire la sieste, de ne pas bosser. Et puis derrière ces dernières années, il y a des livres qui sont parus, l'allergie au travail, le titre, le droit à la paresse. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est assez symptomatique de notre ère du temps. Et puis il y a la question de la pénibilité du travail, qui est une vraie question, qu'il ne faut pas nier. On a vu Charlot dans la diapo précédente, des temps modernes pris dans les rouages de la révolution industrielle. Et quand on parle de pénibilité, ils en ont parlé au Parlement. Il y a une députée qui a dit « Qui a déjà fait un métier pénible ?» Elle parlait à l'Assemblée nationale. Pénibilité du travail. Alors, on pense aux travaux manuels. Moi, je pense à ces hommes et ces femmes sur les chantiers. Je pense aux infirmières, aux aides-soignantes qui sont des travaux tellement fatigants, toujours debout avec la pression par manque du personnel. Aussi, un travail relationnel, psychologique, manuel, qui demande aussi de l'intelligence pour choisir les traitements, pour bien faire ce qu'il faut faire. Mais je pense aussi à tous ces employés qui sont sous le stress de devoir toujours être performant, obligé de se donner à 150%. Vous savez qu'aujourd'hui, on assiste à ce que les anglo-saxons ont appelé Là, c'était le stress, le quiet quitting, l'abandon silencieux, que on trouve aujourd'hui des employés, des travailleurs dans les entreprises qui abandonnent leur travail, mais silencieusement, sans que ça soit vu. Ils sont là, mais ils ne font plus d'heures supplémentaires, ils font le strict minimum, ils regardent leur portable, ils font semblant d'avoir les yeux ouverts en mettant un petit masque, hein. Quelle est notre approche du travail en tant que chrétien, si vous l'êtes? Est-ce que cela change quelque chose, le fait que je sois chrétien, dans ma façon de voir le travail et mon travail? Et je voudrais citer Anne-Marie Husson qui a écrit un livre, Ma vie professionnelle, une aventure de foi, qui travaille avec Agapé, Mission Agapé, dans Proactive, qui s'intéresse aux chrétiens et la vie professionnelle que nous avons rencontré avec la pastorale du CNEF 06. Et qui dit, le travail est-il à voir comme une malédiction, quelque chose à endurer, ou comme une bénédiction, quelque chose à savourer? Et elle aussi s'empresse d'ajouter que c'est souvent un peu des deux, à tour de rôle, une malédiction, une bénédiction, ou parfois les deux en même temps. Et ça dépend des circonstances, ça dépend du contexte, ça dépend des moments. Et je nous invite ce matin à revenir comme d'habitude à la parole de Dieu, la Bible, pour essayer de dégager ce que serait une approche biblique, c'est-à-dire une approche fondamentale du travail qui pourrait peut-être m'aider, nous aider dans mon quotidien du travail. Et peut-être qu'il faudrait ajuster notre conception du travail, notre propre philosophie du travail au regard de la révélation de Dieu dans sa parole, la Bible. Et je vous propose 4 affirmations. On n'aura peut-être pas le temps de faire les 4 affirmations sur le travail et sous la forme « travailler, c'est… » Voilà. Eh bien, travailler, d'abord, c'est gagner son pain. Et je vous demande pardon pour ce simplisme, mais ça fait partie du réalisme de la Bible, un réalisme désarmant. Autrement dit, gagner son pain, autrement dit, subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille. Et je crois qu'il n'est pas inutile de nous rappeler cela à l'heure où l'on considère que le travail doit être un épanouissement de la personne humaine. Le réalisme biblique nous fait revenir à une vision un peu moins prétentieuse du travail, plus réaliste, et la Bible n'a pas peur d'être réaliste. Jésus résume bien l'enseignement de toute la Bible concernant le travail quand il dit tout simplement « l'ouvrier mérite son salaire ». Il a travaillé pour ça. Il n'est pas question de le priver de son salaire, de retenir son salaire, de discuter du salaire, d'abaisser son salaire, de spolier de son salaire. L'ouvrier, quel qu'il soit, travaille pour un salaire. Il n'y a rien de déshonorant de travailler pour cela. Et Paul non plus n'avait pas de problème pour écrire aux chrétiens qui sont à Thessalonique un verset qui va vous paraître un peu radical, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Alors, dans la bouche d'un politicien aujourd'hui, ça ferait mauvais effet, quand même. Il y en a qui s'essayent parfois à ce genre d'affirmation, ça, c'est pas très bon. Mais il faut savoir que les chrétiens thessaloniques, certains d'entre eux en tout cas, comme ils attendaient le retour du Seigneur, imminent, ben ils avaient décidé de plus travailler. Genre un peu mystique, un peu illuminé, et Paul, réaliste, mais si vous travaillez pas, ben vous ne mangez pas non plus, parce que travailler, c'est gagner son pain. Et nous n'avons pas en tant que chrétiens à avoir de fausses hontes. Nous pouvons travailler pour gagner notre vie sans devoir absolument trouver d'autres motivations spirituelles. Travailler pour gagner son pain est une motivation tout à fait honorable. Et cela est vrai pour toutes les professions et pour tous les jobs. Il y a les acteurs ou les actrices de cinéma qui parfois nous disent qu'ils font un film alimentaire. C'est un peu pour justifier la médiocrité du film. Mais ils ont travaillé juste pour avoir un peu d'argent. Tous les acteurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, hein, à part Gérard Depardieu en France et Catherine Deneuve, les autres, ils rament. Mais bon, parfois, ils font des films alimentaires pour gagner leur pain. Et cela vaut aussi pour tous ceux qui travaillent dans les œuvres chrétiennes. Les missionnaires, Mouna et Charles à Kinshasa, les Galarato à Madagascar, pilotes d'hélicoptères pour Eli Mission ou infirmières. Les Marshall à... Non, pas les Marshall. Le couple missionnaire à La Réunion également. L'ouvrier mérite son salaire. Les artistes chrétiens aussi méritent leur salaire. Les pasteurs aussi méritent leur salaire. Il y a une vocation, c'est clair. C'est une vocation, il y a un appel que j'ai reçu en 1980 à être disponible pour lui, mais c'est aussi un métier. Travailler, c'est gagner son pain, et c'est déjà bien. Mais vous vous en doutez, c'est pas la seule affirmation que la Bible fait au niveau du travail. Et la deuxième de ces thèses vient compléter la première et nous fait lever les yeux vers le ciel où se tient le grand travailleur qu'est l'Éternel. Parce que travailler, c'est imiter Dieu. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire à notre ressemblance, pour qu'il domine sur la création, c'est-à-dire pour qu'il travaille sur la création. Il y a un lien entre l'activité de l'homme et sa création à l'image de Dieu, c'est-à-dire à sa ressemblance, un lien étroit qui est établi avec le pour qu'il domine ou pour qu'il gère la création ou qu'il travaille le créé par Dieu. Pour ce travail, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Pour le travail, l'homme est fait à l'image de Dieu. Travailler, c'est ressembler à Dieu. Lorsque l'homme travaille, alors il y a un autre texte que je vous lis quand même, « Car en six jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le septième jour. » Et il nous est parlé de ces six jours de la création où Dieu a travaillé, et cette semaine nous est présentée comme un modèle pour notre semaine de travail. Comme Dieu travaille, l'homme travaille. Mais comme Dieu se repose, l'homme sait aussi se reposer. Et il faut pouvoir insister là-dessus, il ne faut pas oublier le repos. Donc lorsque l'homme travaille, il imite Dieu qui est un Dieu qui travaille. Et là, encore une fois, la Bible, le Dieu de la Bible se distingue des dieux grecs, par exemple, qui sont des penseurs infini, des intelligences pures. Non, Dieu, tel que la Bible nous le présente, est un Dieu qui s'active. Il fait même plusieurs métiers. Il est potier, il est couturier, il est jardinier, il est juge, il est berger dans le psaume 23, il est médecin dans le psaume 103. Dieu est un intérimaire. Il fait tous les jobs. Il fait beaucoup de métiers, en tout cas il travaille. Et quand l'homme travaille, il imite Dieu comme un enfant peut imiter son père et sa mère. Quand les parents font la vaisselle, souvent l'enfant les imite, enfin au début en tout cas, quand ils sont bien petits. Alors ils jouent plutôt avec l'eau, mais ils imitent quand même, tout commence par l'imitation. Alors l'enfant ne travaille pas de manière égale aux parents, mais il travaille de manière analogue. De même, lorsque nous travaillons pas de manière égale à Dieu, mais de manière analogue. Quand je travaille, je peux dire, je fais comme Dieu. Et je crois que c'est aussi une pensée à retrouver pour sortir un petit peu de la morosité du travail qui est souvent la nôtre, travailleur, travailleuse du 21e siècle. Et je prends ce mot travailleur au sens large, de gens actifs, les étudiants aussi. Les femmes ou les hommes au foyer qui ont pris un congé parental pour élever les enfants. Pense à tous les mamans aussi. Moi, j'ai une maman qui ne travaillait pas, mais qui était active pour élever ses enfants, mais qui était dans plein d'associations caritatives. Ma mère travaillait, je lui rends hommage à ma maman. Les chômeurs qui cherchent un emploi, c'est du travail que de chercher du travail. Tous ceux, et les retraités, j'ai failli oublier les retraités, pardon, hein. Il y en a quelques-uns par ici. Les retraités actifs, même, enfin, ils sont tous actifs du moment qu'on est une activité. Le verbe grec pour travailler, c'est ergazomai, qui a donné ergonomique, hein, pour le travail. Et il veut dire en même temps travailler, s'activer, œuvrer. Les gens actifs. Tous les actifs travailleurs devront bien nous rendre compte que lorsque nous travaillons, nous ne sommes pas en dehors du plan de Dieu, mais au contraire, en plein dedans. Nous remplissons notre mandat de créature à l'image de Dieu. Le travail est une bonne chose, les amis. Alors bien sûr, il y a eu comme un grain de sable dans l'histoire humaine et dans l'histoire du travailleur devant l'Éternel. L'homme et la femme, au début, géraient la création et tout était très bon, dit le texte de Genèse 1. Le travail, y compris, était très bon. Et puis, il y a eu la rupture. On ne va pas parler d'une chute, mais une rupture de relation avec Dieu en raison de la révolte de l'homme qui voulait être Dieu à la place de Dieu. Et c'est toute la création qui en souffre. Et l'homme est toujours à l'image de Dieu, mais cette image est déformée. Mais cette image est troublée par le mal ou par le péché, comme on l'appelle. Le miroir est devenu déformant. Et évidemment, le travail en subit les conséquences. C'est à la sueur de ton front. Tu travailleras à la sueur de ton front, tu tireras la nourriture du sol avec peine. Et je ne crois pas qu'il faille parler de malédiction. C'est une conséquence. C'est une conséquence de la révolte de l'homme et qui ne porte pas sur le travail lui-même, mais sur les conditions de travail. Et ceux qui travaillent aujourd'hui savent que les conditions de travail, on y revient à cette pénibilité, sont difficiles. Le patron qui a des exigences, les collègues qui sont parfois difficiles, et puis il y a la lourdeur des horaires, il y a les conditions de travail difficiles, l'effort physique, le stress, la pression, les cadences infernales, comme dit encore Gaston avec un petit sourire, la monotonie, l'ennui en haut à droite. Et il faut bien reconnaître cette pénibilité. Et il faut aussi lutter contre cette pénibilité. Rien ne nous empêche on est invité aussi à lutter pour améliorer les conditions de travail. Si l'accouchement se fait avec souffrance, rien ne nous empêche d'inventer des moyens pour que la souffrance soit moins importante lors de l'accouchement, la péridurale par exemple. Je fais le parallèle parce qu'il y a aussi une conséquence au niveau de l'accouchement dans la parole. Le travail, mais le travail n'est pas touché, le travail reste cependant, malgré cette pénibilité, reste cependant une bénédiction, un élément de la création pour lequel Dieu a dit « tout était très bon ». Le travail fait partie du paradis. Et nous allons le retrouver, le travail. Ça, c'est peut-être la mauvaise nouvelle. Mais le travail sans la pénibilité, l'activité sans le côté négatif, dont sur cette nouvelle terre où nous serons invités, quand Jésus reviendra, il y aura quelque chose à faire. Et c'est tant mieux, moi je ne me vois pas en grande robe blanche en train de jouer du luth pour chanter les louanges de Dieu. Il y aura certainement des louanges, mais il y aura de l'activité, il y aura de l'aventure. Il y aura quelque chose à faire. Dieu bénit le travail. Il dit du bien, c'est le sens de béni. Il dit du bien du travail. Et nous, qu'en disons-nous? Que dites-vous de votre travail, de votre activité? Travailler, c'est imiter Dieu. Je regarde ma montre. Dans ton rêve, toi, ta prédication, c'était 20 minutes, c'est ça que le maximum. Bon, je fais encore un point quand même. Si la première affirmation, travailler c'est gagner son pain, était très réaliste, la seconde, travailler c'est imiter Dieu, nous élever vers Dieu, la troisième nous appelle à voir le travail dans sa dimension horizontale, en rapport avec le travail, avec les autres, pardon. Travailler c'est servir les autres. Alors c'est plus facile à percevoir quand on est médecin, infirmière, aide-soignante, ou facteur, ou professeur, ou instituteur, j'emploie l'ancien mot, que lorsqu'on est employé de bureau ou ouvrier dans une grosse usine, Plus l'organisation du travail est complexe, moins le travailleur aura l'impression de servir les autres par son travail. Et comme disait Karl Marx, c'est l'aliénation du travailleur, comme disait Georges Marchais, l'aliénation du travailleur. Cette distance avec le produit fini et avec ce service pour les autres. Mais malgré la distance, il faut réaffirmer que tout travail reste un service à la société, à la collectivité, aux autres. C'est magnifique de savoir que métier vient du mot ministère. Et que ce mot ministère veut dire service. Le travail est un service. Et pour ceux qui aiment bien les mots, il faut savoir qu'en hébreu, le mot travailler, le verbe travailler, et le verbe, enfin non, le ebed, c'est le verbe qui veut dire travailler, mais à la fois servir. C'est le même mot pour ces deux verbes, travailler et servir. Ainsi, sans le savoir et sans parfois le vouloir, les hommes servent leur prochain en travaillant. Et notre société est faite de gens qui se rendent service les uns les autres. Les uns aux autres. Et cela même si l'esprit de service est tout à fait absent. Moi, j'ai un souvenir de la Poste à Bruxelles. Je ne vais pas parler de la Poste en France ou quoi, mais vous savez qu'à Bruxelles et dans les environs de Bruxelles, il y a un problème de langue, hein, entre le français et le néerlandais, on va dire le flamand. Et en tant que francophone, ce que je suis de naissance, parfois, l'employé de la Poste était flamand. Et on sentait qu'il ne voulait pas servir un francophone. Il parlait que néerlandais, alors que je savais qu'il parlait français. Et parfois, ça crispait. C'était un peu dur, parce que moi, je ne lâchais pas le morceau non plus. Vous êtes là pour me servir. Non, bref. Mais même sans l'esprit de service, ils servent. Même sans l'esprit de service, on sert les autres en travaillant. C'est un beau clin d'œil de Dieu, ça, je trouve. Et puis, il y a dans le Nouveau Testament un verset extraordinaire et pourtant qui n'en a pas l'air. Il s'agit d'Éphésiens 4, 28. « Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. » Il y a là un type dans l'église d'Éphèse, en Turquie actuelle, qui ne voulait pas travailler et qui a choisi de se servir dans la poche des autres, un voleur. Il devient un chrétien et là, tout change, il va changer dans tous les domaines de sa vie, aussi au niveau du travail. Il va se mettre à travailler honnêtement de ses propres mains et plus encore, il va se mettre à servir par son travail ceux qui sont dans le besoin. C'est extraordinaire. Au lieu de se servir dans les poches des autres, il va par son travail servir les autres et remplir les poches de ceux qui sont dans le besoin. Secourir ceux qui sont dans le besoin, nous dit cette parole. Une nouvelle naissance, une nouvelle mentalité, un nouvel esprit de service, et cela vaut pour les anciens voleurs. Mais aussi pour tous les autres, même ceux qui ne volaient pas, le chrétien est appelé à voir dans son travail une occasion de servir les autres. Et en faisant cela, il imite encore une fois Dieu, Dieu qui est le travailleur dans sa création, mais aussi le serviteur dans son œuvre de rédemption, de salut, dans son incarnation. Et j'aime particulièrement ce texte de Philippiens 2 qui nous dit « Il s'est dépouillé lui-même » parlant de Jésus, en prenant la condition de serviteur, de doulos, le serviteur. Et Marc 10, 45, il est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et par toute sa vie, Jésus nous montre et nous apprend que la dignité de l'homme, c'est de servir. Que le service, et par conséquent la dignité du travail, se trouve aussi dans le service. Tout travail, parce qu'il est service, est en quelque sorte une expression de l'amour du prochain. Et à cause de cela même, le travail garde toute sa valeur, même lorsqu'il est accompli dans des conditions pénibles et inintéressantes. Dans le royaume de Dieu, nous travaillons non pas en nous servant des autres pour atteindre je ne sais quelle promotion, mais pour servir les autres. On ne se sert pas des autres dans le travail, mais on sert les autres. Le travail, c'est du service. Et là aussi, notre regard sur le travail peut et doit peut-être être changé pour retrouver un sens nouveau à notre activité, pour éventuellement nous délivrer de la tentation de faire de notre travail une idole. Le travail qui me pose, qui me permet de dominer les autres. Non, le travail pour servir. Et cet aspect du travail sera déterminant aussi pour le choix d'une profession, pour les jeunes. Et le chrétien ne devrait peut-être pas se poser la question du choix d'une profession en se demandant quel est le travail le plus dur, le moins dur, pardon. Ou quel est le travail qui va me rapporter le plus ? Le critère ne serait pas celui de la tranquillité maximum ou du gain maximum, mais du service maximum. Du service selon ses capacités, bien entendu, selon ses aspirations, selon sa passion même. Mais le critère du service. Je laisse le quatrième point pour une prochaine fois. Et je vous invite à réfléchir à votre conception du travail avec ces trois premiers points. Travailler, c'est gagner son pain. Travailler, c'est imiter Dieu. Travailler, c'est servir les autres. Que le Seigneur nous inspire et nous renouvelle dans notre vision du travail et de notre activité.